Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
La justice populaire prend de l'ampleur dans la ville de Goma et ses environs. Cela dure depuis quelques mois. La société civile ville de Goma estime que cela dénote d'une faiblesse du pouvoir judiciaire et du maintien de l'ordre dans la ville. Elle appelle toutefois la population à l'apaisement. Épreuve nationale de la formation professionnelle et métier. Reportée à cause de l'insécurité dans la province éducationnelle Nord Kivu 2, elles se tiendront finalement du 15 au 17 juillet. Toutes les dispositions sont prises, assure le directeur de ce secteur, Bertin Kalenda. Et puis, Bruno Le Marquis est l'invité de ce journal. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à l'intérim et coordonnateur humanitaire en RDC a clôturé hier sa visite en Ituri. Après échange avec le gouverneur et les comités de déplacés à Djougou, il estime que la situation des déplacés reste catastrophique et il faudrait des solutions durables. À tous et à toutes, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des cas de vindicte populaire sont enregistrés presque chaque semaine dans la ville de Goma et ses environs. Cela dure depuis quelques mois, déplore la coordination urbaine de la société civile Force Vive. Le dernier cas en date, lundi 8 juillet, à Turunga, dans la périphérie nord de Goma, lorsqu'un homme en tenue militaire a été lapidé par la population, l'accusant d'être impliqué dans des cas de cambriolage. Le président de la société civile ville de Goma estime que cela dénote une faiblesse du pouvoir judiciaire et du maintien de l'ordre dans la ville. Marion Gavo, dans ses propos recueillis par Bernard Denyangi.
Depuis quelques mois, nous assistons chaque semaine à une moyenne de 5 cas de justice qu'on appelle encore vindicte populaire, dont les victimes sont des civils ou un groupe de gangs armés, de policiers ou des militaires en armes. Le fait de se rendre justice soi-même constitue une infraction punissable en droit congolais. Ça s'exprime par des incendies, tabassés, blessés, lynchés, brûlés vifs, directement tués les présumés auteurs par les populations locales en colère. Quand on lynche un bandit devant un enfant de 5 ans, de 6 ans, qu'est-ce que cet enfant garde dans sa tête? Ainsi, malgré la situation d'insécurité, la société civile de la ville de Goma demande aux autorités sécuritaires et de la justice de jouer pleinement leur rôle régalien aux populations de cesser d'appliquer la justice populaire en référant les présumés auteurs vers la police de proximité.
Dans l'actualité aussi, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves nationales de la formation professionnelle et métier dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Ce sera du lundi 15 au mercredi 17 juillet prochain. Cette mise au point est du directeur de ce secteur. Selon Bertin Kalenda, ces examens ont eu lieu au niveau national du 1er au 4 juillet dernier et qui avaient été reportés dans le Grand Nord Kivu à cause de la prise par les rebelles du M23 de la partie sud du territoire de Lubero. Il profite de cette occasion pour appeler tous les inspecteurs et responsables des centres à réserver un accueil particulier aux candidats déplacés, chacun dans le centre le plus proche. Bertin Kalenda est au micro de Guylaine Kassassia.
Ces épreuves ont été reportées à la date du 15 au 18 juillet 2024. Et comme la date prévue s'approche, je voudrais profiter de votre micro pour demander aux acteurs éducatifs du secteur de la formation professionnelle de leur dire que toutes les dispositions sont prises pour que ces épreuves se passent en toute quiétude à la date indiquée par le ministre de l'Éducation. Donc, à partir de lundi, à ce niveau, j'appelle les coordinateurs, les sous-proviseurs, les inspecteurs, les chefs d'établissement de préparer sérieusement leurs apprenants. Et pour les apprenants se trouvant dans la partie conquise par les rebelles, tous les inspecteurs sont instruits, les différents chefs de centre, de recevoir tous les déplacés. Je voudrais profiter pour demander à tous les apprenants qui sont en déplacement de se présenter dans n'importe quel centre le plus proche d'eux. Et ils seront admis, ils vont participer sans problème les épreuves à ce niveau-là.
Au total, 5647 candidats, dont près de 2800 FIF, vont passer ces épreuves dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Par ailleurs, dans l'attente des résultats de l'examen d'État édition 2024, au Nord Kivu, précisément dans la ville de Beni, certaines filles finalistes ne veulent surtout pas entendre parler de mariage. Pour elles, les études passent avant tout, puis le travail, ensuite le mariage. Grévis Saloumou a rencontré certaines d'entre elles. Voici son reportage.
Sarah Mwingi a 17 ans. Elle a étudié la gestion commerciale au collège Pidis à Boutembo. En vacances à Bénin, nous l'avons rencontrée avec ses camarades et où elle attend la publication des résultats de l'examen d'État. Elle affirme que la priorité pour elle, ce sont les études universitaires avant le mariage.
Je vais étudier d'abord pour y avoir un boulot fixe qui pourra me fournir de l'argent. Puis je vais penser au mariage. Il y a d'autres filles, peut-être qu'il n'y a pas les moyens qui puissent étudier. C'est pourquoi elles se marient. Et les autres, peut-être qu'elles ne veulent pas étudier. Elles veulent juste partir dans leur foyer. Les études d'abord, puis les mariages.
Pour sa part, Immaculée Plavis Mongi, 18 ans, élève du complexe scolaire Les Anges à Beni, pense que la gestion de ces pays a aussi besoin des femmes dans les instances de prise de décision.
Il y a des ça ne va pas dans le pays, des guerres, des massacres. Il faut qu'on choisisse des bons dirigeants, bien dirigeantes, parce qu'il y a aussi des femmes qui dirigent, comme la première ministre. Je rêve un jour diriger ce pays, mais chacun a sa chance. Il faut être capable d'être la vie.
D'autres filles rencontrées dans la ville de Beni partagent la même opinion. Pour elles, les études font partie des clés qui contribuent à l'autonomisation de la femme dans la société. Beni, Grévis Saloumou, Radio Okapi.
Restons à Beni pour parler de l'arrivée hier mercredi du chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC en provenance de Bounia en Ituri. Bruno Lemarquis est allé évaluer la situation sécuritaire et humanitaire après l'occupation par le M23 de quelques cités du territoire de Lubero. Signalons que dans la zone de Beni, Butembo et Lubero vivent des milliers de déplacés dans la précarité et sans assistance humanitaire à la suite de l'activisme des rebelles des EDF et du M23. Direction l'Ituri. Le service antifraude est interdit d'exercer sur l'ensemble du territoire de cette province. La décision est de la procureure générale près la cour d'appel. Dans sa correspondance du 5 mai dernier rendue publique hier, l'autorité judiciaire accuse ce service de l'État de prester en violation de la loi et de tracasser les opérateurs économiques. En réaction, la Fédération des entreprises du Congo, FEC Ituri, s'est réjouie de cette décision qui, selon elle, contribue à assainir le climat des affaires. Explication avec Martial Kizabiamungu.
La procureure générale Edoxima Soma reproche aux responsables du service de l'antifraude d'avoir procédé au recrutement d'une centaine d'agents et de les avoir déployés aux différents postes frontaliers à travers la province en violation de la loi. Elle ajoute que ces agents qualifiés d'illégaux se sont caractérisés par des multiples cas de tracasserie de la population et des commerçants. Pour mettre fin à ces désordres, la procureure générale dit avoir instruit les responsables du service de l'antifraude retirer tous ses agents et de ne plus poser aucun acte dans l'assemble de la province de l'Ituri. Cela en attendant la nomination des nouveaux animateurs de ces services dans les provinces par les ministères de la Justice. La Fédération des entreprises du Congo FEC Ituri, qui a décrié plusieurs fois les tracasseries et abus du pouvoir de la part de ces services, salit cette décision. Christophe Lonema, président du conseil provincial de la FEC à l'Ituri, estime que cette mesure vient soulager les opérateurs économiques souvent victimes des violences armées. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
La plateforme dénommée Kasmia entendait comprendre et agir dans le secteur minier industriel et artisanal dénonce l'exploitation minière artisanale illicite à Kakanda dans la province du Lualaba. Dans un rapport d'enquête publié le 8 juillet à Kolwezi, elle rapporte que la concession de l'entreprise Boss Mining est envahie par des illégaux qui utilisent des engins lourds pour l'exploitation des minerais dont le cobalt et les communautés locales ne bénéficient de rien, contrairement aux dispositions du code minier révisé. Kasmia recommande notamment au ministre des Mines de faire déguerpir de cette concession tous les exploitants illégaux. On écoute à ce sujet Shadrach Moukad, coordonnateur de cette plateforme. Il est au micro de Jean Gandou.
Kasmia Asbel dénonce l'exploitation minière illégale par un sujet libanais qui s'est introduit dans la concession appartenant à Boss Mining qui en détient les titres d'exploitation et qui paye des taxes. même les droits superficiaires, qui paye des redevances minières, qui paye des impôts à l'État congolais et qui a même signé un cahier des charges avec les communautés riveraines. Aujourd'hui, voir des centaines de camions lourdement chargés sortir chaque jour des sites vers les unités de traitement, polluant l'environnement, alors que la loi congolaise reconnaît qu'au seul Congolais l'exploitation minière artisanale, et aussi voir des engins introduits dans les sites d'exploitation artisanale qui sont aussi prohibés par la loi. Voilà qui nous a poussé à alerter l'opinion publique, à alerter les autorités compétentes pour que ces pratiques de pillage, ces pratiques de fraude minière soient découragées pour que les minerais du Congo ne soient pas indexés sur le marché international.
Au Maniema, l'Union des jeunes de cette province exprime son mécontentement face à l'utilisation des fonds destinés à la réhabilitation des routes de desserte agricole. Selon cette structure, depuis la création en décembre 2021 du Fonds provincial d'aménagement des routes de desserte agricole, aucune route à travers la province n'est réhabilitée jusqu'ici. Cette organisation interpelle les autorités compétentes. On écoute à ce sujet Emmanuel Njadi, porte-parole de l'Union des jeunes. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes venus ici pour exprimer notre mécontentement face à la mégestion et la mauvaise utilisation des fonds destinés à la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles dans la province du Maniema. Malgré les ressources considérables allouées au Fonds provincial d'aménagement des routes des dessertes agricoles, FOPAR, depuis sa création, la situation demeure alarmante et soulève des questions sur la gestion des fonds et l'implication des autorités compétentes à cette gestion des FOPAR. Nous sommes sans ignorer que les FOPAR n'a pas réussi à réhabiliter ne fût-ce qu'un kilomètre de route de dessertes agricoles dans toute la province du Maniema et surtout dans les territoires. Malgré les taxes prélevées sur les pauvres contribuables, dans toutes les routes de dessertes agricoles, cette situation est préoccupante car les routes de dessertes agricoles sont essentielles pour le transport des produits agricoles, le développement économique local et l'amélioration du bien-être des agriculteurs dans les 7 territoires qui composent notre chère province, le Maniema.
Toutes les tentatives d'avoir la réaction du directeur de Fonds provincial d'aménagement des routes FOPAR n'ont pas abouti. Pendant ce temps, dans le territoire de Beni, les travaux de réhabilitation des tronçons routiers Nzenga, Kasusu, Kabaloa, Loselose, Alungupa, longs de 25 km, ont été lancés mardi à Kabaloa, un village du secteur de Rwenzori. Selon la société civile locale, ces travaux, qui sont exécutés par une main-d'œuvre locale, sont financés par le Conseil Café Cacao et autres produits agricoles pour le développement rural. L'objectif est de faciliter l'évacuation des produits champêtres vers les centres de consommation, indique la même source. Et au Kasai Oriental, nous apprenons qu'un nouveau pont a été jeté mardi sur la rivière Lubi à Kenakuna, chef-lieu du territoire de Kabeya Kamwanga. Ce pont de 45 tonnes relie la ville de Mbujimayi au Kasai Oriental à la ville de Kananga au Kasai Central sur la nationale numéro 1 en passant par la cité de Kenakuna. D'après l'Office des routes, ce nouveau pont est dans un premier temps opérationnel pour les piétons, les vélos et les motocyclettes. Et puis, déclaration du patrimoine. La Cour constitutionnelle est en train d'enregistrer depuis mardi les déclarations écrites des biens des membres du gouvernement. Après le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalou Kondé, place à la Première ministre entrante, Judith Suminois, de déposer la liste de son patrimoine au greffe de la Cour. Il s'agit d'une obligation constitutionnelle à laquelle se conforment tous les membres du gouvernement à chaque nomination et sortie, et rien n'est transparent de cet exercice qui suscite quelques interrogations sur ce qui est réellement déclaré. Revenons sur ce que dit la Constitution à ce sujet avec vous, Jeff Ngoy.
L'article 99 de la Constitution dispose qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens bien du conjoint selon le régime patrimonial des enfants à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en ayant 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Et aussi en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, dans les mêmes délais suivant la fin des fonctions, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Comme on peut le constater, tout reste confidentiel conformément à la Constitution. Rien n'est rendu public. Seul le procureur général peut vérifier la véracité de cette déclaration et, le cas échéant, l'enrichissement illicite.
Actualité internationale.
Un bateau transportant des migrants a heurté des rochers au large de la ville côtière de Sesme. Nous sommes en Turquie. Cela s'est passé mardi, entraînant la mort de 7 personnes, selon un communiqué de la garde côtière turque. Une personne a été secourue de la mer par un bateau de pêche qui a immédiatement alerté la garde côtière. Par la suite, 18 autres personnes, dont des enfants, ont été extraites de la petite île de Karada, proche de Sesme. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver une personne toujours portée disparue, précise la garde côtière, et les migrants secourus ont été déclarés en bonne santé.
L'invité.
Nous recevons, comme annoncé, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à l'intérim et coordonnateur humanitaire en RDC. Il a clôturé hier sa visite de 72 heures en Ituri. Sur place, Bruno Lemarquis a notamment échangé avec le gouverneur ainsi qu'avec les comités de déplacés dans le territoire de Djougou pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. Bruno Lemarquis est avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Vous venez de clôturer aujourd'hui votre visite de 72 heures à Bounia. Je le précise, elle n'est pas la première. Quel constat faites-vous globalement de la situation humanitaire dans la province de l'Ituri?
Alors, durant cette visite, on a fait plusieurs choses. D'abord, c'était pour se rendre compte, encore une fois, discuter avec tous les partenaires humanitaires et prendre la mesure des défis par rapport à la situation humanitaire. Comme vous le savez, cette situation humanitaire est assez dramatique dans l'est de la République démocratique du Congo, et notamment en Ituri, où à peu près 40% de la population est déplacée dans la province. Mais néanmoins, nous avons, à travers nos conversations, y compris avec les populations, enregistré un certain nombre de progrès dans certaines des zones qui étaient affectées par l'insécurité et par les conflits.
Alors, que peut-on retenir des échanges que vous aviez eus, notamment avec le gouverneur de province, sur la situation sécuritaire et humanitaire dans cette province de l'Ituri?
Donc, le gouverneur de la province nous a expliqué tous les efforts qui sont en cours en termes de cohabitation pacifique, en termes de réconciliation entre les communautés, en termes de médiation, notamment avec l'initiative qui a été initiée par le ministre national de la Défense, en travaillant avec le PDDRCS, qui a conduit à la signature d'un certain nombre d'actes d'engagement avec certains groupes. Ça, c'est une chose. Et puis aussi des efforts qui ont été appuyés par la province, avec l'appui de partenaires, notamment la MONUSCO, pour mettre en place des équipes de médiation qui ont assisté un certain nombre de dialogues communautaires. Néanmoins, il nous a aussi décrit qu'à l'ouest du territoire de Djougou, notamment, la situation sécuritaire se dégrade autour de Mongwalou, autour de Kilo, autour des carrés miniers notamment, avec des affrontements entre les groupes armés. Et chaque fois qu'on parle d'affrontements entre groupes armés, etc., on parle de nouvelles personnes déplacées. Donc ça s'améliore un petit peu d'un côté, mais ça se dégrade de l'autre.
Vous avez rencontré justement les comités de déplacés dans le territoire des Djougou et qui pensent qu'il est très précaire d'envisager un retour dans leur village d'origine. Ils attendent toujours de l'aide humanitaire suspendue depuis déjà une année dans plusieurs sites. Quelle est votre réaction?
Alors d'abord, pour clarifier, il n'y a pas eu de suspension de l'aide humanitaire. Mais il y a une pression, compte tenu du manque de moyens que nous avons, à répondre à tous les besoins en République démocratique du Congo, en Ituri et ailleurs. Oui. Donc le plan de réponse humanitaire au niveau de la RDC, pour le moment, n'est financé qu'à 25%, c'est-à-dire que nous n'avons reçu qu'un quart des ressources nécessaires pour répondre à tous les besoins des personnes vulnérables qui vivent notamment en situation de déplacement. Donc c'est vrai que sur le terrain, ça se traduit par une aide humanitaire qui n'est pas à la hauteur des besoins, et les déplacés le vivent dans leur chair, puisque les distributions, par exemple, ou les programmes de cash, les programmes d'eau, assainissement, etc., ne sont pas financés à la hauteur. D'où notre plaidoyer constant, au niveau national, au niveau international, pour que la crise humanitaire en RDC soit moins négligée.
La situation sécuritaire reste précaire en Ituri, en dépit des quelques efforts du gouvernement pour établir la paix dans certaines localités sous occupation de groupes armés. Comment entrevoyez-vous dans l'avenir la situation humanitaire dans la province de l'Ituri, surtout dans ces contextes d'insécurité, d'agression à l'est du pays, mais aussi du désengagement de la MONUSCO?
Bon, on espère que tous les efforts qui sont faits par le gouvernement de la RDC, par les autorités provinciales, portera des fruits. Il faut jamais baisser les bras. La meilleure manière de répondre à une situation humanitaire, c'est de tout faire pour baisser les besoins humanitaires. Par rapport au retrait de la MONUSCO, il n'y a pas encore une date de départ pour la MONUSCO de l'Ituri, comme il n'y a pas encore une date du départ de la MONUSCO du Nord Kivu, puisque c'est un processus graduel, responsable et organisé, et tout doit être fait pour que l'État congolais et les autorités provinciales, les institutions congolaises, soient aussi équipées que possible à se préparer pour ce retrait de la MONUSCO. Donc cette réunion qui vient d'avoir lieu, c'est vraiment pour reprendre la planification de ce retrait et la planification de la transition.
Bruno Lemarquis, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était là le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'intérim et coordonnateur humanitaire en RDC. Il répondait aux questions de Ezekiel Mouzalia. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.